Bonjour, c'est Agnès Bonfillon. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, qui vous permet de prendre le temps et d'aller plus loin sur les sujets d'actualité. Aujourd'hui, nous parlons d'une course mythique.
Et donc, on retourne en Guadeloupe, car la route du Rhum, une fois de plus, a été à la hauteur de sa réputation. Les navigateurs en solitaire nous ont offert un final époustouflant.
Oui, époustouflant, parce qu'il n'y a que 7 minutes d'écart entre les deux marins, entre Francis Joyon, qui est donc arrivé après 7 jours et 14 heures
de mer. La route du Rhum départ le 6 novembre de Saint-Malo, 12e édition que l'on va suivre grâce à vous, Frédéric Veil. Bonjour Frédéric.
Bonjour Agnès.
On vient d'entendre ta voix, hein, c'était à l'arrivée en Guadeloupe, il y a 4 ans. On voulait un petit peu revenir sur cette course mythique. On le disait, c'est 44 ans d'histoire quand même, hein, la route du Rhum.
Oui, 44 ans d'histoire, tout juste. Ça avait débuté le 5 novembre 1978 avec la première édition de la route du Rhum. Ça partait déjà de Saint-Malo. Et 23 jours plus tard, eh bien, c'est le Canadien Mike Birch. Mike Birch qui vient tout juste de décéder à l'âge de 91 ans. Eh bien, Mike Birch l'emporte avec 98 secondes d'avance sur Michel Malinowski. L'incroyable dénouement, mais comme vous allez l'entendre grâce aux archives de RTL, c'est un bien triste souvenir qui a marqué cette première édition.
À l'euphorie d'une époustouflante arrivée coq à coq entre le Canadien Birch, le vainqueur, et le Français Malinowski, a succédé dans la course du Rhum l'angoisse. L'angoisse sur le sort d'Alain Colas, dont on est absolument sans nouvelles depuis maintenant 15 jours. La famille du navigateur solitaire ne cache pas, elle, son pessimisme. Et c'est la belle-sœur de Colas, Pierrette, voici ce qu'elle a dit à Thierry Dattis.
Si Alain n'est pas arrivé en temps utile, c'est qu'il lui est arrivé quelque chose. Bon, Alain connaît suffisamment son bateau, il était parti pour gagner.
Mais depuis combien de temps exactement on n'a plus de nouvelles de lui?
14 jours.
Plus aucune nouvelle?
Non.
Alain Colas avait 35 ans, il a officiellement disparu le 16 novembre 1978 au large des Açores. Manuareva, son bateau ne sera jamais retrouvé, hein, au cœur de la tempête qui sévissait ce jour-là en Atlantique. Alain Colas avait eu par radio la direction de course, le temps de dire ses derniers mots, des derniers mots que je vous confie. Je suis dans l'œil du cyclone, il n'y a plus de ciel, tout est amalgame d'éléments, il y a des montagnes d'eau autour de moi. Il reste plein de mystères autour de la disparition d'Alain Colas, qui en cette année 76 luttait pour redevenir le numéro 1 de la course au large, après avoir subi une vingtaine d'opérations chirurgicales et éviter de peu l'amputation de son pied droit. Il luttait aussi pour rembourser des dettes. Les recherches ont duré près d'un mois pour le retrouver. Mais en vain, nul ne sait encore aujourd'hui ce qui a pu se passer. C'est le plus grand mystère, Agnès.
Frédéric, pour parler de quelque chose de beaucoup plus gai et qui correspond aussi à la route du Rhum, c'est l'engouement populaire qu'il y a autour de cette course. Est-ce que ça a tout de suite pris?
Alors ça a pris... peut-être pas sur la première édition, il y avait du monde, c'était une attraction. L'engouement populaire est vraiment arrivé en 1982, déjà sur la deuxième édition. Il y avait déjà du monde à Saint-Malo, les grands multicoques sont apparus. Donc pour les gens, c'était quelque chose de nouveau parce qu'on était émerveillés devant ces grands bateaux. Et puis, il y a eu quelques petites nouveautés comme ça qui sont arrivées dans la course au large. Ainsi, la grosse nouveauté de cette deuxième édition, c'est la balise Argos par les satellites, grâce aux satellites, de veiller sur cette flotte de 52 marins qui s'était lancée de Saint-Malo. Toutes les stars étaient là pour la deuxième édition, toutes les stars du moment. Il y avait Mike Birch, il y avait Tabarly, il y avait Sir Robin Knott Johnson, il y avait Carsozon, Terlin, Riguidel, Karadec. Que des noms qui nous ont fait rêver quand on était plus jeunes. Et puis plusieurs marlins comme Tabarly, Terlin, ils ont abandonné. C'est Marc Pajot qui franchira la ligne d'arrivée en vainqueur. 18 jours, 1h, 38 minutes de course. Et 10 heures plus tard, Bruno Perron devancera Mike Birch.
Donc on s'aperçoit quand même que c'est une très belle course, mais elle est très compliquée aussi.
De toute façon, ce n'est pas une course facile. La course au large, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Il faut être un marin aguerri pour s'engager sur une telle course. En 86, il y a eu 33 bateaux au départ. Il n'y en a eu que 13 seulement qui sont arrivés. C'est Philippe Poupon, Philippe Poupon qui reprend encore le départ cette année. Philippe Poupon sur Fleury Michon qui l'emporte avec une joie mesurée, vraiment une joie mesurée du Breton, puisque 10 jours plus tôt, son ami Loïc Karadec avait lui aussi et malheureusement disparu lors d'une tempête en Atlantique.
Il y a tellement de choses qui sont sont passés dans cette course et je suis content d'être arrivé le premier, évidemment. J'étais parti pour ça et j'ai rempli mon contrat et je suis très très content. Cette course, je la voulais et puis je me suis bagarré pour et ça s'est bien passé. On a eu du vent et je pense que quand il y a eu l'accident de Loïc, je sais qu'il y a eu beaucoup de vent. Il y avait 50-60 nœuds de vent. Et... j'y ai pensé tous les jours, hein, quand on est en mer et quand on prend aussi nous des risques, on y pense et j'oublierai jamais Loïc, c'était un très bon copain et ça me fait énormément de peine.
Alors justement, là aussi, autre drame hein, sur cette route du Rhum, Loïc Caradec, qui était le skipper, hein, on s'en rappelle Frédéric, de l'immense catamaran royal, un maxi catamaran conçu pour être mené par un équipage de 6 à 8 hommes minimum.
Ben oui, et c'est là où il y a eu toute la polémique, parce que je pense que il était tout seul à bord. C'était un immense, trop grand catamaran, ce catamaran royal. Et voilà, on n'a jamais trop su ce qui s'est passé. On a retrouvé le bateau avec le mât cassé, on l'a retrouvé. C'est Florence Artaud hein, qui est arrivée la première sur zone. Quand elle s'est approchée, elle a vu qu'il n'y avait aucun signe de vie. Les secours envoyés sur place ont fait le même constat. Le corps de Loïc Caradec, lui, ne sera comme celui d'un inconnu, jamais retrouvé. Loïc Caradec avait 37 ans et quelques jours avant le départ de cette troisième route du Rhum, il avait déclaré vouloir arrêter la course au large, n'est plus le feu sacré, avait-il dit, à la veille du départ de Saint-Malo. C'est incroyable.
Message prémonitoire.
Lui aussi, un très, très grand marin.
Alors, on fait maintenant un bond hein, de 4 ans dans le temps. Nous sommes désormais le 18 novembre 1990, Frédéric. Et là, eh bien, Philippe Poupon, tenant du titre, tente d'être le premier marin à faire un doublé. Est-ce qu'il y arrive ou pas ?
Ben non, c'est raté pour lui parce que 8 heures plus tôt, il y a un autre concurrent, et pas n'importe quel concurrent, celle qu'on appellera désormais la petite fiancée de l'Atlantique, celle qui devient la première femme à mettre le mot marin au féminin.
RTL. Florence Artaud, reine de l'Atlantique. Florence Artaud remporte la route du Rhum.
Moi, je suis très fière d'avoir gagné cette course avec pas mal d'avance sur des gens comme Poupon et Birch. Et bon, c'est pas prétentieux, je suis très contente de moi. Ça prouve que même quand on est une femme, tout est possible. Ça m'amuse beaucoup de me retrouver là ce soir, sachant qu'il n'y a pas un bateau qui est arrivé encore. C'est vraiment drôle.
Et au fur et à mesure, Frédéric, il y a beaucoup de techniques qui vont être modernisées et permettre aux marins de naviguer de façon plus sûre.
Oui, alors ça arrivait doucement. Ces routeurs météo qui, là, vraiment arrivent de plus en plus nombreux sur cette course en 1994. Alors, on ne saura jamais vraiment si c'est les routeurs météo ou si c'est le talent de Laurent Bourgnon qui permettent aux franco-suisses de s'imposer sur son trimaran Primagaz. Sur la ligne à Pointe-à-Pitre, il devance Paul Vatine, Yves Parlier et Alain Gauthier. 4 ans plus tard, en 1998, Laurent Bourgnon remet ça dans une course où 6 hommes se tiendront en 30 heures. Hein, et quels hommes, puisqu'il y avait quand même Alain Gauthier, Franck Camas, Marc Guillemot, Loïc Perron et Francis Joyon qui complètent ce tableau d'honneur. Et dans cet ordre exactement, Laurent Bourgnon, à 32 ans, lui, devient le premier marin double vainqueur de la route du Rhum.
RTL 8h03. Étonnant destin que celui de ce franco-suisse né il y a 32 ans de l'autre côté des Alpes, souvent présenté comme un gros dormeur, est un acharné de travail, un préparateur méticuleux de ses bateaux qui ne réchigne jamais à fabriquer une pièce de ses propres mains. Plus que la compétition, c'est la vitesse qui le fascine.
J'aime aller vite, j'aime bien régler le bateau, j'aime le pilotage. Et simplement, je n'ai pas l'agressivité pour avoir la haine, pour battre d'autres concurrents, pour les battre uniquement. Enfin, c'est pas ce que je rêve en fait. Ma vraie passion, c'est de concevoir ces magnifiques bateaux et de les faire évoluer et de les faire aller vite.
Laurent Bourgnon, Frédéric, surnommé le petit prince de l'Atlantique qui disparaîtra lors d'un accident de plongée en Polynésie hein, en 2015.
Oui, c'était presque 3 mois après le décès accidentel de Florence Artaud, qui, elle, a perdu la vie, on le sait, lors de l'accident d'hélicoptère sur le tournage en Argentine d'un jeu d'aventure télévisé. Florence Artaud, qui fut la première femme à remporter la route du Rhum, comme Hélène MacArthur, 12 ans plus tard. Hélène, la petite Anglaise qui laisse exploser sa joie en remportant la 7e édition à Pointe-à-Pitre.
Hélène MacArthur a donc été la première à franchir tout à l'heure la ligne d'arrivée de la route du Rhum.
C'est extraordinaire, c'était une course très très dure et mais aussi une course très, très super quoi. De voir un arrivée comme ça, c'est impressionnant. Et l'arrivée ici, c'est encore une autre chose, c'est super quoi.
On se souvient bien hein, de cette joie d'Hélène MacArthur, c'était un fabuleux moment. Donc Hélène MacArthur qui remporte la Route du Rhum en 2002 en monocoque.
Oui, parce que c'est Michel Desjoyeaux en fait qui remporte officiellement la Route du Rhum. Michel Desjoyeaux qui l'emporte en multicoque. Mais Michel Desjoyeaux était parti une journée après parce qu'il y avait eu énormément de tempêtes sur l'arc breton. Et donc les grands multicoques étaient partis après. Desjoyeaux donc en 2002, 4 ans plus tard, c'est Lionel Lemonchois qui l'emporte. En 2010, il y avait ensuite 85 bateaux au départ. Franck Camas, à bord du Trimaran, Groupama 3, arrive le premier. C'est le 9 novembre 2010, après 9 jours, 3 heures de traversée. Vous voyez, déjà, les temps sont en train de se réduire. Francis Joyon et Thomas Coville complètent le podium. En monocoque, c'est Roland Jourdain qui l'emporte. C'est sa deuxième victoire consécutive dans cette catégorie.
La Route du Rhum, cette course en solitaire, n'échappe pas à la tradition. Frédéric, à chaque fois, il y a un ou des favoris?
Oui, il y a toujours un des favoris, comme tous les ans. En 2014, c'était Armel Lecléache qui se présentait comme grand favori. Il était à bord de son Banque Populaire 7. Mais il se passe quelque chose d'incroyable pour Armel Lecléache, qui se blesse à la main assez sérieusement. Il se blesse au tendon et il est remplacé au pied levé par Loïc Perron. Alors Loïc Perron, il a pu naviguer depuis un certain temps. Il prend la barre du Maxi Trimaran. Et c'est Loïc Perron qui gagne cette course, marquée par des conditions météo dantesques du départ, puisque 15 concurrents furent hors course après seulement 48 heures. Parmi eux, Thomas Coville, on s'en rappelle, il avait témoigné à l'époque sur RTL. Il s'était fait une énorme frayeur en entrant en collision avec un cargo dès la première nuit, détruisant une partie de la coque centrale et le flotteur. Voilà, ça avait été hyper impressionnant pour Thomas Coville. Perron, lui, avait tracé, et il l'emporte donc tout heureux, tout fier et surpris également à Pointe-à-Pitre.
C'est vrai que c'est bien, hein, ça fait du bien, c'est magnifique surtout.
Oui, c'est le meilleur.
C'est gentil, merci. Merci la Guadeloupe, c'est étonnant de voir ça. Le record, c'est vraiment anecdotique, sincèrement. C'est la cerise sur le bateau, c'est très bien, mais avec ou sans, on s'en fout.
Et on en arrive donc dans cette mini-rétrospective, Frédéric, à la 11e édition. C'était il y a 4 ans, en 2018, avec 123 concurrents au départ.
Oui, et il y en a un qui n'arrivera pas, c'est Armel Lecléache, décidément maudit sur cette course, qui lui chavire au large des Açores, qui a failli perdre la vie. D'ailleurs, il a témoigné chez Flavie Flamand sur cette aventure malencontreuse qu'il avait vécue il y a 4 ans sur la Route du Rhum. Et surtout, ce qu'on se rappelle de cette dernière édition, la 11e, c'est le final dantesque dans la nuit antillaise, où François Gabart arrive en tête en Guadeloupe et Francis Joyon arrive juste derrière. Il se présente en même temps à Basse-Terre. Basse-Terre, c'est la pointe sud de la Guadeloupe. Ils sont dans la dernière ligne droite et finalement, c'est Francis Joyon qui l'emporte avec 7 minutes et 8 secondes d'avance et qui explose le record de la traversée en 7 jours, 14 heures, 21 minutes et 47 secondes. C'est le record à battre.
Forcément, heureux d'arriver en Guadeloupe, heureux de gagner la course et heureux aussi de tout ce monde qui a la gentillesse d'accueillir François et moi à notre arrivée en fait. C'est vrai que c'était costaud. Le fait de tactiquer avec François, c'était passionnant aussi. Moi, j'étais hyper ému. Non, c'était vraiment une course extraordinaire, oui.
Un véritable record donc pour Francis Joyon, on le rappelle, 7 jours, 14 heures, 21 minutes et 47 secondes. Est-ce qu'il est possible de battre ce record, Frédéric?
Alors si les conditions météo sont bonnes, cette année il devrait tomber, voire être explosé, puisque les premiers routages, les premières, ce qu'on appelle les ETA, de course donne les premiers ultimes 6 jours de traversée, entre 6 et 9 jours. Les Ocean 50, ce sera entre 8 et 11 jours. Les IMOCA, entre 8 et 11 jours également. Et puis les classes 40, entre 13 et 17 jours. Mais 6 jours, les ultimes, normalement, si les conditions météo sont bonnes, devraient mettre 6 jours pour faire Saint-Malo, Pointe-à-Pitre, c'est-à-dire 3 543 000. C'est assez exceptionnel. Si on nous avait dit ça il y a une vingtaine d'années, on nous aurait pris pour des fous. Bah, aujourd'hui, ce sera certainement possible.
Sur le coût d'une course comme cela, pour participer à la Route du Rhum, alors bien sûr, il y a les sponsors. Et heureusement, j'ai envie de te dire, parce que ça doit coûter un petit peu d'argent.
Ouais, ça coûte très très cher. Pour prendre les ultimes, hein, ce sont les grands trimarans, les trimarans géants. Déjà, un ultime, il faut savoir que ça coûte entre 17 et 20 millions d'euros. Ce sont des bateaux de haute technologie. Le fonctionnement annuel, il est environ de 3 millions. Pour s'aligner sur la Route du Rhum, l'inscription, ça coûte 80 000 euros pour un ultime. Ça coûte 25 000 euros pour un IMOCA et 15 000 pour un Ocean 50. Et puis après, ce qu'il faut savoir, c'est que, je prends l'exemple des IMOCA. Il y a l'inscription, mais il y a aussi un budget global de fonctionnement. C'est à peu près 100 000 euros sans les salaires qu'il faut verser à tous les accompagnateurs. Mais 100 000 euros, vous voyez, c'est assez énorme parce que il faut ajouter l'avitaillement du bateau pour la traversée, les billets d'avion pour les équipes techniques, le logement en Guadeloupe pour les mêmes équipes, les locations des semi-rigides, et puis ensuite, il faut payer le rapatriement du voilier en cargo, les assurances. Donc voilà, ça peut coûter très très cher et ça rapporte finalement pas grand-chose parce que le vainqueur de la Route du Rhum, en ultime, il gagne 64 000 euros. En Ocean 50, c'est 8 000 euros. Ah oui, 8 000 euros seulement. En IMOCA, c'est 45 000 euros. Vous voyez, donc il y a un delta, mais bon, voilà, on est dans une course à la compétition. Mais on est loin, on est très très loin des salaires dans certains sports.
Oui, effectivement, et on se dit que les sponsors sont là, c'est un bel affichage, on peut le dire quand même.
Ah oui, d'ailleurs, il y a une étude qui a été faite tout récemment. Les sponsors aujourd'hui préfèrent investir sur la voile qu'à des tournois de tennis comme Roland-Garros, où il y a moins de visibilité pour les sponsors et pour les VIP, parce que voilà, là, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut encore dans la voile. Ça dure 10 jours, un peu plus de 10 jours à Saint-Malo où on peut s'afficher. Et puis ensuite, les images, elles font le tour du monde. Le départ des bateaux, ça fait le tour du monde. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sponsoring, en tout cas sur la voile, et de plus en plus.
On adore quand tu nous donnes tous ces chiffres, Frédéric. Est-ce que tu as les âges des skippers qui participent,
en tout cas
le plus jeune, le plus vieux?
Alors déjà, il faut savoir qu'il y a 138 skippers qui seront au départ. Ça va vous chagriner, ça, Agnès, mais il y en a que sept femmes seulement au départ.
Il y a encore du boulot.
Bon, il y a encore du boulot. Le plus jeune, c'est Martin Louchard. C'est un Normand, il est de Granville, il a 19 ans, il sera en classe 40. Ouais, 19 ans, ça fait un peu peur, mais il a bien 19 ans. Le doyen, c'est André Lomé, lui, il a 69 ans, il est dans la catégorie des roms mono. Vous savez, c'est les monocoques assez historiques, et des vieux monocoques généralement, qui eux font la course un petit peu en retrait, évidemment, des grands ultimes et des IMOCA. Ça donne une moyenne d'âge de 44 ans quand même pour tous ces skippers. C'est Francis Joyon qui a 66 ans, lui, qui est le tenant du titre, hein, et qui détient lui aussi le nombre de participations, puisqu'il s'élance pour la 8e fois. On rappelle le record à battre, hein, tu te rappelles, Agnès?
Je m'en rappelle, 7 jours, 14 heures, 21 minutes, 47 secondes.
C'est parfait.
Je l'ai sous les yeux.
Il y a 14 nationalités au départ, en tout cas parmi ces 138 marins, des Français bien sûr en grande majorité, hein, puisqu'ils sont 111, mais il y a des pays qu'on a peu l'habitude de voir sur cette course. On retrouve un Japonais, un Israélien et surtout un Chinois, Jing Kong-chu, qui est un athlète paralympique qui a perdu sa main gauche dans un accident de feu d'artifice quand il était jeune. Il sera au départ de sa première Route du Rhum, mais ce n'est pas un novice, hein, puisqu'en 2015, il avait déjà participé à la mini transat entre Douarnenez et Pointe-à-Pitre. Il avait mis 30 jours. Et puis en 2017, il était devenu, de 2017 à 2020, il était devenu le premier Chinois à effectuer un tour du monde en catamaran. Et puisqu'on parle des skippers en situation de handicap, eh bien, sachez que sur la ligne de départ, il y aura aussi Damien Seguin. Damien Seguin, lui, qui est né sans main gauche, qui est devenu en 2021 le premier athlète handisport à boucler le Vendée Globe. C'est déjà sa 4e participation au Route du Rhum. Et puis 2e participation pour Fabrice Payen, qui fut en 2018, donc lors de la précédente édition, le premier skipper appareillé d'un genou prothétique au départ de la Route du Rhum. Quand je vois Fabrice Payen sur son bateau, quand je vois Damien Seguin, quand il fait tous ses exploits, et puis ce Chinois que je ne connais pas encore, mais Jing Jong-Ku, que j'ai croisé sur les pontons depuis quelques jours, on peut être qu'admiratif devant ces trois skippers d'exception.
Et force le respect, effectivement. Et ces skippers, Frédéric, tu nous fais vivre sur l'antenne de RTL, tu les rencontres souvent avant le départ à Saint-Malo. Moi, j'aimerais te demander un petit peu la magie de l'arrivée. On l'entend dans ta voix, on l'a entendu en début de podcast. Quand tu commentes cette arrivée, c'est... On a l'impression que tu vis quelque chose d'extraordinaire, véritablement.
Oui, alors à plusieurs titres, parce que voilà, c'est une aventure extraordinaire d'être sur un ponton et de voir arriver un voilier dans la nuit, de voir arriver même de jour, enfin, vous imaginez même pas, il y a une ambiance de folie, il y a énormément de monde, il y a la musique antillaise évidemment qui est là. Et puis on voit ces marins arriver qui ont la mine déconfite parce qu'ils ont passé 7 jours en mer à batailler, à presque pas dormir, donc ils sont à la fois déconfits mais heureux, ils semblent arriver sur une autre planète, et puis nous aussi on est un petit peu sur une autre planète parce qu'on est là sur des pontons, on vibre avec eux, on ressent aussi l'émotion avec eux. Et puis bah, pour la plupart de ces marins, moi je les connais tous depuis plus de 30 ans, et c'est vrai qu'il y a une affection particulière, je peux vous dire que, alors pas pour Francis Joyon parce qu'il n'est pas aimable avec tout le monde, mais ça c'est son côté vieux marin breton, mais quand Loïc Perron, Jérémy Bayou, François Gabart arrivent sur des pontons, moi, ce sont des skippers que je connais bien et on se connaît très bien, bah, c'est vrai qu'il y a aussi une certaine émotion, pour tout vous dire, j'ai déjà eu quelques petites larmes à l'arrivée sur les pontons, parce que voilà, c'est un moment d'émotion et c'est un moment de partage assez exceptionnel.
Et puis heureux de les voir arriver à bon port pour le coup.
Oui, à bon port. Et j'ai toujours cette image, moi, il y a 4 ans du Britannique Caleb Thompson qui était arrivé, mais bien en retard, parce que juste avant d'arriver sur la ligne en Guadeloupe, il a percuté la falaise, il s'est endormi. Il avait navigué comme un fou, il était en tête, il avait le plus beau bateau, c'était lui le vainqueur, le grand vainqueur de cette route du Rhum en catégorie IMOCA. Et puis bah, dans les derniers instants, il s'est endormi et il a été percuté la falaise là-bas en Guadeloupe. Et quand il est arrivé sur les pontons de Pointe-à-Pitre après Paul Meillat, qui a donc remporté cette route du Rhum 2018 en IMOCA, eh bien, Alex Thompson, on n'avait pas les mots pour lui parler. On n'avait pas les mots pour lui parler parce qu'il était, désolé pour son sponsor, désolé pour lui, désolé pour nous. Et on ne savait pas quoi lui dire. C'était hyper, hyper émouvant.
Écoute, en tout cas, ça nous donne bien envie de vivre cette 12e édition qui ne va pas tarder donc à partir. Merci beaucoup, Frédéric, de nous avoir fait revivre tous ces moments hein, qui font de la Route du Rhum cette course mythique. On te dit à très vite sur l'antenne de RTL pour vivre cette nouvelle édition. Merci de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que le podcast Focus est à retrouver sur toutes les plateformes et bien sûr le site et l'application RTL.